La grande nouveauté qu'introduit la perspective actionnelle, c'est de reprendre à nouveau la classe comme un environnement en homologie parfaite avec la société à laquelle on veut préparer les élèves. On veut préparer les élèves maintenant à être de bons citoyens, efficaces, responsables, autonomes, critiques, dans une société multilingue et multiculturelle. Tiens, ça tombe bien. Qu'est-ce que c'est une classe ? C'est un environnement par nature multilingue. Il y a forcément au moins la langue 1 et la langue 2, et puis il y a énormément de cas où il y a beaucoup plus de langues. Et c'est forcément un milieu multiculturel parce qu'il y a la culture de l'enseignant et puis il y a toutes les cultures d'apprentissage différentes d'un élève à l'autre.
Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast du blog Culture Fleu. Je suis Marianne Viadé et je vais partager avec vous quelques astuces pour vous aider à mieux réussir votre cours de français langue étrangère. Vous pouvez bien sûr aller faire un tour sur le site culture-fleu.de. Vous y découvrirez toutes sortes de conseils pour animer votre cours. Aujourd'hui, je suis à nouveau avec Christian Puren et nous parlons de ses critiques vis-à-vis du CECRL. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite soit à écouter l'interview précédente dans laquelle il se présente, soit à faire un tour sur son site www.christianpuren.com. Donc, rebonjour Monsieur Puren, merci beaucoup d'être à nouveau là. Nous voulions poursuivre en fait notre discussion de la dernière fois. Nous avions parlé en fait des manuels de FLE et de la manière dont ils intégraient la perspective actionnelle. Et finalement, ça avait transparu tout au long de l'interview. Vous êtes assez critique du cadre européen commun de référence. Et peut-être que nous pourrions parler justement de ces sujets-là à présent. Quelles sont les critiques que vous formulez vis-à-vis de ce cadre ?
Bon, il y a un certain nombre de critiques. Ce que je voulais dire déjà, c'est que ça n'est pas original. On considère souvent en France comme le plus critique, effectivement, vis-à-vis du cadre, tout simplement parce que ça a commencé, j'ai commencé à critiquer le cadre très tôt, puisque dès que la version finale est parue chez Didier en 2001, j'ai publié un article dans les langues modernes qui a été publié en 2002. Alors, ma critique à l'époque n'était pas une critique de fond du cadre, mais une critique sur le fait que le cadre commençait déjà à être pris comme une espèce de Bible, ou comme il y aurait le petit livre rouge de Mao et le gros livre rouge du cadre. Or, ce que je montrais déjà dans cet article, c'était un article des langues modernes que vous trouvez sur mon site, publié en 2002, c'est qu'en fait, comme je le disais à l'interview précédente, le cadre, en fait, d'une part, ne tire pas les implications méthodologiques du constat que les auteurs font de la nouvelle situation de référence et du nouvel objectif de référence qu'eux-mêmes annoncent, soit qu'ils n'avaient pas les moyens de le faire à l'époque, soit qu'ils s'étaient eux-mêmes coupés de la possibilité de cette implication en décidant de ne pas aborder le problème méthodologique. Alors, on dira, bon, ils avaient le droit de ne pas aborder le problème méthodologique. Oui et non. Oui, en théorie, non, dans la mesure où la méthodologie, ils ne l'abordent pas, mais ils sont complètement plongés dedans pendant tout le cadre, et il s'agit de l'approche communicative. Alors que la situation de référence et l'objectif de référence nouveau qu'ils annoncent auraient impliqué justement l'élaboration de cette perspective actionnelle qu'eux-mêmes annoncent. Donc ça, c'est vraiment la première et grosse critique que je fais du cadre et de ceux qui l'ont loué un petit peu comme la nouvelle Bible, sans voir que ce qui était fondamentalement nouveau dans le cadre impliquait justement une modification de la méthodologie et du paradigme de la communication sur lequel ces auteurs restaient. Donc, ce qui m'a prodigieusement énervé, c'est que, en particulier en France, la plupart des didacticiens se sont vraiment précipités sur le cadre comme le nouvel texte de référence, c'est le cas de le dire, sans faire jouer un petit peu leur esprit critique. Par contre, cet esprit critique a très bien fonctionné, au moins au début en Allemagne. Et ce que je vous propose de mettre à l'écran, c'est un compte rendu qui a été fait par Anne-Friedrich Delouis, publié en 2008 dans les langues modernes. Ce compte rendu, elle fait un compte rendu en fait d'un colloque de didacticiens germanophones, autrichiens et allemands, qui a eu lieu à l'université de Tübingen en 2002, donc juste l'année après la publication du cadre. Et c'est une critique absolument en règle, systématique du cadre. Il ne reste pratiquement rien du cadre. Je suis d'accord avec toutes les critiques qui sont faites, donc j'y renvoie les enseignants qui m'écoutent et qui pourront consulter soit le compte rendu, soit directement les actes qui ont été publiés de ce colloque en 2003. Mmh. Bon, j'ai aussi publié un document très, très sévère, non pas vis-à-vis du cadre lui-même, mais contre deux collègues qui chantaient les louanges du cadre. Et c'est en 2002 sur mon site aussi. Et, il s'agit d'un compte rendu d'un ouvrage qui présente le cadre comme vraiment la référence pour la formation des enseignants. Bon, c'est assez insupportable quand vraiment on voit la grosse lacune du cadre que j'ai cité tout à l'heure. Dans la série des références aussi, je m'excuse de faire la promotion d'un ouvrage que je viens de terminer avec un collègue de l'université de Lausanne. Il était à l'université de Montpellier jusqu'à la fin de l'année universitaire précédente. C'est Bruno Maurer, qui avait déjà écrit un ouvrage très critique sur l'idéologie du plurilinguisme du Conseil de l'Europe. Et dans cet ouvrage, c'est moi qui me suis chargé de cette partie. Bon. À la fois, je critique à nouveau le flou qui avait été noté par beaucoup d'enseignants des descripteurs, avec des mots comme « assez »,« souvent », etc. Oui, il y a énormément de flou. Ce que je dis dans cet ouvrage, c'est qu'en fait, critiquer le flou des descripteurs, c'est servir un peu d'idiot utile aux auteurs du cadre, et je confesse avoir servi d'idiot utile en l'occurrence, dans la mesure où, en fait, le flou des descripteurs, je ne dirais pas qu'il est volontaire, mais en tout cas, il sert le projet fondamental des auteurs du cadre, qui ne sont pas des didacticiens, mais qui sont des représentants d'Eurocentre et du British Council, pour ne pas les nommer, qui sont des vendeurs de certifications internationales. Mmh. Mais les descripteurs qui sont dans le cadre, ces échelles les descripteurs des échelles de compétences, en fait, n'ont pas à être précises pour ces organismes commerciaux, dans la mesure où ces descripteurs ne sont pas le début de la fabrication des évaluations, mais ils sont la conséquence, en fait, des tests, des calibrages d'items qu'ils ont eux-mêmes réalisés. Et ces descripteurs ne peuvent pas être utilisés de façon correcte, scientifique, sans en fait se référer aux items calibrés qui sont protégés par ces organismes à peu près comme des secrets industriels. Vous voyez. Et donc, on a fait croire aux inspecteurs, en tout cas en France, on a fait croire aux enseignants en France, et je peux en témoigner parce que j'ai beaucoup fréquenté les réseaux, les listes de diffusion des enseignants à l'époque. On a fait croire que, sans aucune préparation, un enseignant pouvait préparer des évaluations plus scientifiques directement en s'inspirant des descripteurs du cadre. Or, c'est absolument impossible. Mmh. Ces organismes de certification, en fait, ont toute une procédure très, très, très mathématique, avec des modèles mathématiques, mmh. où ils mélangent, par exemple, dans des tests, ils mélangent les anciens items déjà calibré avec de nouveaux items pour voir si les réponses sont les mêmes. Et donc, il y a toute une procédure très lourde qui permet justement de générer d'autres épreuves calibrées. Mais il n'est pas possible d'utiliser directement les descripteurs du cadre pour faire des évaluations. Alors, pourquoi est-ce qu'on peut dire que ça a été fait presque exprès? C'est qu'on en arrive au bout de quelques années au constat, en tout cas en France, que décidément, ni les inspecteurs ni les enseignants ne sont capables de faire des évaluations vraiment scientifiques. et que le plus simple et le plus facile, eh bien, c'est de prendre directement les épreuves du British Council, du CIEP, du Goethe Institute, etc. Donc, en fait, toute cette opération, sinon, en tout cas, elle aboutit, en tout cas, sans faire de procès d'intention, elle aboutit à une privatisation de l'évaluation des langues dans les systèmes scolaires européens. Ça, c'est vraiment la grosse critique que l'on fait. Voilà. Du point de vue interne aussi, on peut dire quand même que c'est un petit peu se moquer du monde que d'appeler ce document « apprendre, enseigner, évaluer ». Il est évident qu'ils disent qu'on ne connaît pas de, on ne sait pas de quelle grammaire on peut utiliser. Ils disent eux-mêmes qu'ils n'ont pas de théorie de la compétence, c'est une autre critique que l'on peut faire, qu'on ne sait pas exactement comment on apprend une langue. Et donc, ils ne disent rien sur ni apprendre, ni enseigner, d'ailleurs, comme on le disait déjà la dernière fois, ils refusent de parler de méthodologie. Comment voulez-vous à la fois dire que vous n'avez rien à dire en termes de méthodologie et intituler votre texte « Apprendre, enseigner et évaluer ». En fait, mettre en avant l'apprentissage et l'enseignement, c'est une façon détournée d'imposer en fait le seul objectif de ce texte qui est de prendre position, de prendre pied sur le secteur de l'évaluation. Ce document ne parle que d'évaluer. Et le résultat, c'est, il est bien montré justement par les didacticiens germanophones au cours de ce colloque de Tübingen. Je vous renvoie à leurs actes ou à ce compte rendu. Le résultat, c'est que comme ce texte ne dit rien sur apprendre et enseigner, mais tout sur évaluer, comment est-ce que les enseignants et les systèmes scolaires en général vont l'utiliser? Eh bien, ils vont utiliser le dispositif d'évaluation comme modèle à la fois d'enseignement et d'apprentissage. Eh bien, c'est ce qu'on appelle depuis très longtemps le teaching for the test. C'est-à-dire qu'il y a une modélisation de l'enseignement-apprentissage où on ne fait que préparer, en fait, les épreuves d'évaluation. Voilà. Ça, c'est annoncé dès 2002 par les didacticiens germanophones. Et il suffisait de les lire seulement et de voir et d'analyser s'ils avaient raison ou pas.
Oui.
C'est très curieux que ces actes aient complètement... on n'en parle pas, quoi. On en a très peu parlé. En tout cas, on n'en a jamais parlé en France.
Oui.
Il a fallu ce compte rendu publié en 2008, mais qui n'a pas eu énormément d'impact. C'est comme la Bible. Vous avez des athées, mais ça n'empêche pas les croyants de continuer à croire dur comme fer à la Bible.
Mmh.
C'est le même phénomène. J'ai parlé, je crois, à la dernière interview, j'ai parlé aussi de l'épistémologie de ces auteurs. Ils disent, par exemple, je cite en page 23, « Il faut que la description se fonde sur des théories relatives à la compétence langagière, bien que la théorie et la recherche actuellement disponibles soient inadéquates pour fournir une base. » Ils disent eux-mêmes qu'ils n'ont pas de base scientifique pour définir ce qu'est la compétence. Or, tout le texte, ce sont des échelles de compétences. Il faudra qu'on m'explique quand même cette affaire. Quoi. C'est vraiment très curieux la manière dont ce texte est devenu la référence, alors qu'il est extrêmement pernicieux,
oui.
À mon avis.
Oui, oui, j'avoue que j'ai été très surprise quand vous m'avez envoyé ce texte que je ne connaissais pas. En fait, en Allemagne, je ne savais même pas qu'il y avait eu une réception critique dès le début. Pour l'instant, il est vraiment pris comme la Bible. Les cours universitaires, en tout cas, sont calibrés sur ce cadre commun de référence. C'est vraiment
que les évaluations soient calibrées dessus. Il y a quand même, moi, je reconnais deux avantages au cadre. Le premier, mais c'est énorme, c'est qu'il a diffusé cette annonce d'un changement de situation sociale de référence et d'objectif social de référence. D'un seul coup, on s'est rendu compte qu'effectivement, il fallait préparer les élèves en Europe à non seulement communiquer, mais à vivre et donc à travailler ensemble dans une Europe qui est multilingue et multiculturelle. Donc, la compétence plurilingue, pluriculturelle ne date pas du cadre, mais le cadre a vraiment diffusé cette idée d'une nouvelle, ce que j'appelle configuration didactique, de la même manière que le grand texte antérieur du Conseil de l'Europe, qui sont les niveaux seuils du début des années 70, on en parlait dans mon dernier interview, n'ont pas non plus créé l'approche communicative, mais ont diffusé énormément l'approche communicative à l'époque. Donc ça, c'est, c'est vraiment ce que je reconnais au cadre du point de vue de l'historien de la didactique des langues, qui s'intéresse aussi aux enjeux actuels. Nouvel objectif social de référence, nouvelle situation sociale de référence. Et puis le deuxième intérêt qu'on peut reconnaître au cadre, mais non pas en tant que didacticien, mais en tant qu'administrateur tout simplement, c'est que c'est le cadre qui a réussi à imposer ses propres échelles de compétences. Voilà. Mais ça n'est pas un intérêt du point de vue didactique, c'est-à-dire du point de vue de l'amélioration de l'efficacité de la relation enseignement-apprentissage. J'ai plutôt dit tout à l'heure que ça avait des effets négatifs avec le teaching to the test.
Oui,
mais c'est vrai que du point de vue de la gestion universitaire, de la circulation des étudiants à l'université, avoir la même échelle de référence en termes de compétences de langagières, c'est un avantage effectivement. Mais ça n'est pas une innovation. Ça n'est pas une innovation d'un point de vue didactique, c'est le point de vue qui m'intéresse. Il existait déjà des échelles auparavant, d'ailleurs, qui sont citées dans le cadre. Toutes celles, les échelles d'Alté existaient déjà auparavant. Mais le cadre européen a réussi à imposer ses propres échelles qui sont maintenant reconnues à l'échelle européenne. Voilà le deuxième succès, si vous voulez, le deuxième succès du cadre.
Oui. Oui, enfin moi ce que je trouve aussi qui est assez dommage, mais là le cadre n'est pas responsable, mais c'est la manière dont il a été adapté dans les universités, où vous avez par semestre, vous devez atteindre un niveau, mais clairement le niveau A1, il est atteint en très peu de temps, mais on considère quand même que vous avez validé le niveau A1 au bout d'un semestre, puis le niveau A2 après deux semestres, et ça c'est pas très logique finalement, ça correspond même pas...
Mais ça, c'est l'inconvénient qu'a toute échelle de compétence à partir du moment où elle est utilisée de façon aveugle, en quelque sorte, sans maintenir sur l'évaluation la même capacité d'adaptation dont on parlait dans l'interview précédente à propos des enseignants. C'est la même chose.
Ça a été repris d'ailleurs par les manuels. Hein. Le manuel A1, c'est tout un manuel sur le niveau A1, alors que bon... Il est quand même très basique, ce niveau A1.
Oui. Non seulement c'est un outil qui provoque des lacunes, qui provoque des régressions en termes de réflexion didactique à cause de cet effet amont de l'évaluation sur l'enseignement-apprentissage dont on vient de parler, mais en plus, il est utilisé de façon bête. Il est déjà bête en soi, il est utilisé de façon bête. Alors, ça fait bête au carré, si vous voulez, si je calcule bien du point de vue du calcul.
Donc, on est presque retombé sur ses pattes, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Et alors,
c'est très inquiétant. J'ai écrit un article à l'occasion du colloque de la FIPF à Louvain il y a quelques années. J'ai écrit un article très très critique où je parle de l'état vraiment de déliquescence de la réflexion didactique en France et langue étrangère. Je dis que le fait que le cadre ait été célébré absolument pendant 10 ans ou 15 ans par la plupart des didacticiens français comme vraiment la référence, c'est vraiment le signe qu'il y a quelque chose qui fonctionne mal entre leurs deux oreilles. Il y a un problème. Les universitaires, quand même, par définition, font de l'analyse critique dans le sens universitaire, et qu'ils n'aient pas été capables de voir tous ces problèmes du cadre, ou pire, de les voir, mais de ne pas le dire par intérêt, ça me paraît quand même assez grave.
Mmh. Oui, c'est un système, en fait. Le problème, c'est que c'est un système. Même si on les voit de manière individuelle, c'est difficile pour les professeurs de mettre en place quelque chose qui... Et puis, en plus, c'est bien organisé. Donc, ça sert de référence. Donc, tout le monde s'y réfère. Et si on n'a pas d'alternative à proposer, c'est logique que ça revienne quand même au final à ça.
Voilà, justement, dans l'ouvrage que je vous ai cité, que j'ai fait avec Bruno Maurer, il y a un chapitre, je crois que c'est le quatrième, que j'ai pris en main, et qui fait déjà une première proposition de sortie du cadre. Je vous disais que à mon dernier interview, que cet ouvrage s'intitulait CECR, : par ici la sortie, !. L'une de ces sorties, justement, c'est d'imaginer des évaluations complexes, des évaluations aussi complexes que ne l'est le processus d'enseignement-apprentissage. Et là encore, j'allais dire, je suis désolé, non, je ne suis pas désolé, mais on va m'accuser de néolibéralisme, mais je trouve que lorsqu'on compare les grilles, lorsqu'on compare les grilles de les échelles de compétences de PIRLS pour les élèves en quatrième année d'apprentissage de la langue maternelle, ou de PISA pour des élèves de 15 ans qui sont supposés déjà être en fin de scolarité obligatoire, c'est 15 ou 16 ans. Si je fais cette analyse comparative dans l'ouvrage, les échelles de PISA par exemple sont des échelles qui ne portent pas sur le résultat communicatif des élèves, mais ce qu'ils ont été capables de faire en compréhension sur les textes. Est-ce qu'ils ont été capables de repérer des informations? Est-ce qu'ils ont été capables d'analyser ces informations, de les interpréter, de les évaluer? Ce sont ces activités-là que l'on évalue, pas le résultat. Il y a, je crois que c'est en Belgique, l'université, je crois que c'est de Louvain aussi, a publié, c'est la maîtrise d'œuvre, elle fonctionne comme maître d'œuvre des évaluations PISA en Belgique, et c'est la seule au monde qui a publié non seulement des épreuves, mais les consignes de correction qui étaient données aux correcteurs de PISA. Il y a par exemple, sur une épreuve PISA, on demande aux élèves d'analyser. Leur analyser, ça veut dire tirer des conclusions de la mise en relation de plusieurs informations qu'on a repérées dans le document. D'accord ? On repère différentes informations et on en fait quelque chose. On en tire une analyse. Mmh. Et comme l'analyse était fausse, tous les correcteurs avaient mis zéro. Enfin, avaient mis zéro point. Et le contrôleur de PISA dit, mais attendez, on n'évalue pas le résultat de l'analyse. On n'évalue pas s'ils ont trouvé les bonnes informations pour analyser. On leur demande d'analyser. Ils ont analysé. Ils n'ont pas analysé avec des bons éléments du texte. Et l'analyse n'est pas bonne. Mais ils ont analysé. Ils ont fait le travail. Et donc, ça vaut 100%. ce type d'évaluation, vous ne le trouvez pas dans le cadre.
Oui.
Parce que le cadre est orienté approche communicative et donc efficacité dans la transmission de l'information. Mmh. On n'évalue pas le fait que les élèves soient capables de communiquer. On vérifie s'ils ont trouvé les bonnes informations et qu'ils ont communiqué les bonnes informations. Ça a son efficacité. Je ne suis pas en train de critiquer ça. Mais vous voyez que ce qui se fait dans PISA est tout à fait différent. Est tout à fait différent parce que dans PISA, ce qu'on évalue, en fait, c'est le processus de compréhension du texte. Pour comprendre un texte, il faut repérer certaines choses, analyser, interpréter, réagir, évaluer, extrapoler dans son propre domaine. Je vous signale d'ailleurs que toutes ces opérations, ce sont justement les opérations historiques du commentaire de texte littéraire.
Oui.
Le commentaire de texte littéraire dont on parlait dans l'interview précédente, les opérations mentales, cognitives, de l'explication de textes littéraires, vous les retrouvez dans PISA. Parce que c'est sur les textes littéraires qu'en didactique des langues, on a été le plus loin possible dans toutes les opérations de compréhension. Parce que comprendre un texte littéraire, ça demande énormément de capacités. Mmh. Et on retrouve ces capacités-là dans PISA.
Oui.
Comme on les retrouve dans PIRLS. Et donc, encore une fois, la littérature, oui, elle a toute sa place. Mais pas dans le paradigme de communication. Parce que comprendre un texte littéraire, c'est pas uniquement reprendre les éléments d'information du texte littéraire.
Mais ça, je suis d'accord. Hein. Pour moi, c'était un grand regret, finalement, de pas retrouver ça tellement dans le cadre européen comme de référence. Et comme en Allemagne, on évalue selon ces critères-là, finalement c'est difficile de les introduire dans le cours parce que notre temps imparti est très court, comme vous dites on prépare à l'examen et comme il n'y aura pas d'examen là-dessus,
bien entendu, mais vraiment si vous comparez les échelles de PISA et les échelles du cadre européen, y compris celle du volume complémentaire sur la littérature, c'est vraiment à pleurer.
Et d'ailleurs oui, dans ce volume complémentaire, ils reparlent un peu de littérature. Oui, là, on voit qu'ils ont un peu réintroduit ça. Oui.
Ils ont un peu introduit. D'ailleurs, ils citent PISA à un moment. Mm-hmm. À un moment dans le volume complémentaire, ils citent PISA. Mais ils sont toujours dans le paradigme de la communication. Et toute une partie de l'analyse que j'ai faite dans le troisième chapitre ou la troisième partie de cet ouvrage que je vous ai annoncé porte justement sur l'analyse de la médiation qui est donnée comme la beauté. C'est que vous me parliez, il y a un effet de mode. Ça, c'est très inquiétant quand il y a un effet de mode. Mm-hmm. Parce que quand il y a un effet de mode, eh ben, on choisit le nouvel habit et on laisse tomber le vieil habit. Et mm-hmm. on les vend sur le bon coin. D'accord ? Ouais. Les effets de mode, c'est forcément désastreux en didactique des langues. Parce qu'il faut garder toutes les manières de faire qui se sont accumulées depuis plus d'un siècle. Il faut les considérer comme le patrimoine commun, non pas de l'humanité, mais des enseignants. Mm-hmm. Des enseignants. Est-ce que c'est parce qu'on construit un immeuble moderne dans une ville que l'on va décider de détruire tous les monuments qui étaient là auparavant? C'est le genre de stupidité que l'on fait lorsque on se convertit à une nouvelle approche comme si c'était la solution. Mais c'est tellement difficile d'enseigner que dès que quelqu'un arrive avec ce qu'il présente comme la solution, eh bien, il y a plein de gens qui vont s'y précipiter. C'est mieux ça, hein? C'est the key, la clé, à l'époque de la méthodologie audio-orale américaine, avec le behaviorisme et le distributionnalisme, eh bien, on a pensé qu'on avait trouvé the key, qu'on avait trouvé enfin la clé de l'enseignement scientifique des langues. Après, ça a été avec la méthodologie audiovisuelle, l'approche communicative. Maintenant, on nous refait le coup avec les sciences cognitives.
Oui.
On nous refait le coup avec les sciences cognitives. Et quand on a la perspective historique que je peux avoir, quand je vois le nombre de gens qui se précipitent sur les sciences cognitives et qui espèrent, avec les sciences cognitives, arriver à trouver la fameuse clé de l'enseignement des langues, c'est vraiment à désespérer, quoi. Mm. Moi, je vais prendre ma retraite neurologique définitive d'ici quelques années, mais je n'aurais pas vu ce progrès essentiel en didactique qui est de ne plus croire à cette forme de progrès qui est un progrès qui détruit absolument tout ce qu'il y avait auparavant. Ouais. Essayer d'appliquer la logique écologique du recyclage, essayer de l'appliquer un peu à la didactique des langues. Mm-hmm. C'est pas parce qu'on a de nouveaux produits à consommer qu'on va jeter les légumes de son jardin, quoi. Mm-hmm. Je vous dis ça parce que j'ai 250 mètres carrés de potager et donc j'aime bien mes légumes du jardin, quoi. Hein?
Oui, vous avez bien de la chance. Mais justement, je vais quand même vous embêter un petit peu pour vous reparler de mode, parce que là, justement, en Allemagne, en ce moment, là, on a une nouvelle star qui est apparue, c'est la médiation, qui est très développée dans le volume complémentaire. Et c'est vrai que justement, ça peut être un biais pour réintroduire les textes littéraires, d'ailleurs, puisqu'il va falloir, puisqu'il peut s'agir d'analyser un texte écrit et de le transmettre à l'oral.
Ça... Je vous signale déjà que tout ce que je vous disais dans l'interview précédente, oui, faire fonctionner les demander aux élèves, aux étudiants, de fonctionner comme acteurs sociaux vis-à-vis des textes. Qu'est-ce qu'un acteur social? Qu'est-ce qu'un agent littéraire?
Un médiateur.
C'est un médiateur, fondamentalement, si vous voulez.
Oui, voilà. Oui, oui, mais j'ai très clairement, j'avais cette idée-là en tête pendant que vous parliez, mais je voulais aussi que... Je savais que ça venait plus tard.
Je vous remercie. Vous vouliez me laisser la primeur de l'information. C'est bien. Vous faites une bonne médiatrice entre moi et ceux qui vont observer, qui vont regarder cette vidéo. Voilà, c'est très bien.
C'est très bien. Mais en effet,
regardez l'importance de la traduction dans la gestion sociale de la littérature, les textes littéraires. C'est la plupart, enfin, l'immense majorité des textes littéraires dans le monde sont lus en traduction.
Oui.
Ils sont lus en traduction. Mais donc, grâce à la médiation. Si je reviens sur la médiation, et si je reviens sur cette forme de médiation, c'est demander aux élèves, non pas seulement ou non plus, d'être des lecteurs de textes littéraires. C'est bien, c'est très bien, hein? Ça, c'est la méthodologie active des années 20-60 en France. C'est l'explication, le texte, le commentaire de texte. On en a besoin. Même on en a besoin, même en tant que citoyen. Je veux dire, un citoyen, c'est celui qui est capable d'analyser un discours politique et de ne pas le prendre au premier niveau.
Oui,
la capacité d'approfondissement textuel qui est la spécialité de la littérature, elle a un rôle fondamental à jouer dans la formation du citoyen. Mais jusqu'à présent et successivement, on a demandé aux élèves d'être des lecteurs, donc commentaires de texte. Ensuite, on leur a demandé, ça a commencé relativement tôt, d'être des acteurs, interprètes. Lecture publique de texte, par exemple, jouer des scènes de théâtre. Là, par rapport à la littérature, l'élève va être acteur, interprète. On leur a demandé aussi d'être auteur. Ce sont les ateliers littéraires. Ce qu'apporte la perspective de l'agir social, c'est une nouvelle configuration, si vous voulez. On va demander à un certain moment aux élèves d'être des agents. D'être des agents. Voilà. Mais encore une fois, tout cela peut être parfaitement combiné et articulé, en particulier dans le cadre de projets. Sur mon site, il y a plusieurs textes là-dessus. J'ai pris l'exemple d'un projet mené par un professeur du Guatemala, qui a présenté son projet au CEDIFRAL 2000 à Rio. Et il leur a demandé, il travaillait dans un bon lycée du centre de Guatemala City, et il leur a proposé un projet avec une dimension sociale importante qui était, en français langue étrangère, hein, qui était à la fin de l'année d'aller lire leur traduction, d'aller lire dans les lycées et les collèges de la banlieue de Guatemala, qui sont des banlieues très pauvres, d'aller lire leur traduction à eux en espagnol de poèmes qu'ils avaient choisis pour aller lire, justement. Toute l'année a passé à ça. Bah, c'est facile de réfléchir, de dire que pour faire tout ça, il va falloir qu'ils mettent en œuvre absolument toutes les méthodologies que l'on a passées en revue, qui fonctionnent comme des matrices. Il y a un moment, il va falloir qu'ils fassent de l'explication de texte pour approfondir, parce que la traduction qu'ils vont faire va être une traduction de type professionnel, c'est du mot à mot. Il va falloir qu'ils rendent les effets de style, qu'ils intéressent aussi les élèves exactement comme peut l'être un lecteur français. Il va falloir qu'ils communiquent intensément entre eux pour travailler de façon collective. Il va y avoir l'approche communicative. Ils sont dans une optique de traduction, donc on est dans l'approche plurilingue. Mais oui. Ce qui est intéressant dans les projets complexes, c'est justement que ça permet de mobiliser absolument tout ce patrimoine historique, méthodologique des enseignants. Alors, si je reviens à la médiation. D'abord, le réflexe historique, c'est est-ce que ça ne se faisait pas auparavant ? Il y a une fonction énorme de la médiation qui a toujours été utilisée en enseignement scolaire, qui a été l'usage de la langue 1 au service de la langue 2. J'ai sur mon site bibliothèque de travail, je connais le numéro par cœur, 033. C'est comme le médecin, dites 033. Dites 33, ça va mieux marcher. Là, en l'occurrence, pour utiliser la médiation, vous allez sur ce site, donc à ce document 033. Avant la perspective actionnelle, il y avait déjà 9 fonctions essentielles de la L1 en classe de L2. 9 fonctions essentielles. Ça a toujours été utilisé. Le problème est utilisé par les enseignants, même s'ils ne le disaient pas, parce que depuis la méthodologie audiovisuelle et l'approche communicative, ce n'était pas de bon ton. Oui. Un enseignant qui n'arrivait pas à ne pas utiliser la langue 1, c'était un mauvais enseignant, quoi. Il ne savait pas vraiment utiliser ce qu'on appelle la méthode directe intégrale. Là aussi, c'est très curieux du point de vue historique, par exemple, parce que les didacticiens français, je ne sais pas si c'est passé la même chose en Allemagne, mais les didacticiens français communicativistes qui ont développé et promu l'approche communicative se sont référés très, très souvent à Widdowson. Qui a écrit au début des années 80 un ouvrage qui a fait référence sur l'approche communicative. Voilà, Widdowson, un anglais. Or, il y a tout un chapitre de Widdowson sur l'utilisation de la langue maternelle en classe, en disant, on veut former les élèves à communiquer. Bien évidemment, du point de vue de la logique pédagogique, on va s'appuyer massivement sur la compétence communicative qu'ont déjà les élèves, et la compétence communicative qu'ont les élèves, ils l'ont en langue maternelle. Donc, on va s'appuyer sur leurs compétences communicatives en langue maternelle pour leur faire acquérir une compétence communicative en langue étrangère. Voilà la thèse de Widdowson. Je n'ai jamais vu Widdowson cité par un didacticien français qui ait cité ce chapitre.
Oui.
Ça a été complètement censuré. Pourquoi ? Parce qu'on était sur le paradigme direct du natif. Le bon professeur, c'est le professeur qui n'utilise pas la langue maternelle ou la langue 1 en classe de langue. Mm-hmm. Ce qu'apporte l'approche, ce qu'apporte la perspective actionnelle de l'agir social, et je renvoie à ce document 033, c'est trois fonctions supplémentaires de la langue 1 en classe. Donc, fonction médiatrice. La première médiation, ça va être au niveau des consignes. Dès qu'on est sur des tâches complexes de type tâche sociale, la consigne, ça ne peut pas être deux lignes. Ça va être forcément plus long. Il va forcément falloir s'assurer de la part de l'enseignant que les élèves aient compris la consigne. Ce problème, on le trouve déjà dans la mise en œuvre de la pédagogie différenciée. Quand vous faites travailler des groupes différents avec des consignes différentes, la consigne, elle ne peut pas se réduire à une injonction ou à une question. C'est forcément tout un scénario. On parlait lors de ma dernière interview justement de scénario actionnel. Comment est-ce que vous allez vous assurer que ce scénario est correctement compris ? Comment est-ce que vous allez laisser permettre aux élèves d'intervenir sur le scénario de façon à faire leur choix ? Dans la dernière conférence, j'ai aussi parlé des choix que l'on va laisser aux élèves. Ben, forcément, même si à certains moments ils ont la capacité de le faire en langue étrangère, tout ce qu'on va pouvoir faire en langue étrangère, on le fera en langue étrangère, c'est évident. La seule question, c'est est-ce qu'il n'y a pas des moments, lorsque les élèves vont discuter de ce qu'ils vont faire, est-ce qu'il n'y a pas des moments où ils auront vraiment intérêt et l'enseignant aura vraiment intérêt à ce qu'ils aient bien compris, qu'ils soient bien tous d'accord, que le professeur, les élèves aient bien compris, est-ce qu'il n'y aura pas des moments où il faudra passer en langue maternelle ou en langue 1. C'est une question un peu rhétorique. Le deuxième apport de fonction stratégique de la langue 1 en classe de langue, et donc médiatrice en classe de langue 2, c'est au niveau de la documentation. On n'en a pas parlé dans ma dernière conférence, mais un des domaines d'autonomisation des élèves aussi, en perspective de l'agir social, c'est que les élèves ne vont jamais se contenter uniquement des documents qu'on leur donne. Un manuel qui met en œuvre véritablement la perspective actionnelle est un manuel qui s'arrange pour être incomplet dans chaque unité didactique au niveau de la documentation. C'est un manuel qui oblige les élèves à compléter la documentation en allant la chercher eux-mêmes. On est encore loin, chez les éditeurs. On est loin et ça heurte de front leur paradigme à eux, qui est que le manuel, il doit être autosuffisant.
Oui.
Ben non. Un manuel, maintenant, il ne peut pas tout préprogrammer, c'est ce qu'on disait dans la dernière conférence. Et surtout, il ne doit pas être entièrement autosuffisant pour permettre aux élèves, justement, de compléter. Bon, il est évident, à tous les niveaux, que si certains documents en langue 1 aident les élèves à préparer leur mini-projet ou leur projet, il est évident qu'on va être intéressé à ce qu'ils amènent des documents en langue 1. Mais ces documents en langue 1 qui vont être amenés par exemple, un groupe, eh bien, ce groupe va devoir justifier pour la raison pour laquelle il amène ce document en allemand, par exemple, dans une classe de français langue étrangère en Allemagne, et ensuite qu'il s'arrange pour que les éléments d'information de ce document soient partagés avec la classe. Vous voyez un petit peu le travail, justement, là, en médiation. Les élèves vont servir de médiateur entre le texte qu'ils ont eux-mêmes apporté et les élèves. Ouais. Imaginez aussi ce que ça peut donner dans des classes multilingues, avec des élèves qui sont de langues maternelles différentes.
Oui.
Où chaque élève va pouvoir apporter un document de sa propre langue, mais il va devoir, pour justifier l'intérêt de ce texte, et ensuite pour donner à tout le monde la possibilité de l'utiliser, de le verser dans la documentation commune, il va devoir servir de médiateur. Ça, c'est la deuxième fonction intéressante de médiation langagière au service de la perspective actionnelle. Et il y a une troisième fonction, qui est liée à ce que je disais aussi auparavant dans ma conférence, dans ma partie antérieure de conférence, qui est qu'une fois que, par exemple, en Allemagne, des étudiants, des élèves de français langue étrangère ont produit un document social en français, par exemple une pétition qu'ils ont mise sur un site français de pétition, ça existe, les sites français de pétition. Ben, c'est évident, c'est une démarche normale de citoyens allemands en l'occurrence, de se dire: ce qu'on a travaillé en français, est-ce que ce ne serait pas utile en Allemagne, en allemand ? et donc systématiquement se poser la question du recyclage. Ben voilà, en Allemagne, on aime bien l'écologie. Ben, je propose des démarches écologiques dans l'enseignement et apprentissage des langues. Recycler tout le travail qui a été fait en termes de projet social en français langue étrangère, le recycler pour qu'il serve aussi en Allemagne et en Autriche ou à d'autres gens dans le monde qui sont germanophones. Okay. Donc, il y avait déjà 9 fonctions de la langue 1 en classe de L2. La perspective actionnelle en rajoute 3. Je vous signale que tout ça, on n'en parle pas dans la médiation du volume complémentaire. Hein.
Oui, non.
Je vais vous dire là, on n'en parle pas. Ce qu'on présente dans le volume complémentaire, c'est un fonctionnement du médiateur dans une situation de communication.
Oui.
C'est-à-dire, c'est la grosse critique que je fais, si vous voulez, c'est que dans le volume complémentaire, on retrouve encore le paradigme de la communication.
Mm-hmm.
On retrouve des situations de contact initial, de contact court, où quelqu'un va servir de médiateur entre des gens de langues différentes. Mais ça, dans la réalité, ça peut se passer de temps en temps. Mais l'essentiel de la médiation se fait de manière institutionnelle. Ce sont des traducteurs professionnels qui font ça dans l'édition. Lorsque vous faites le médiateur dans une entreprise, c'est toujours dans un cadre institutionnel qui est défini, où il y a une culture de la médiation qui est liée à la culture d'action. Tout ça est complètement occulté dans le cadre. Si vous voulez, on reste encore une fois sur le paradigme de la communication dans le volume complémentaire. Et si j'ai une critique à faire au volume complémentaire, c'est qu'ils nous font le coup de la Belle au bois dormant et du Prince charmant. C'est-à-dire que 20 ans après la publication du cadre, il y a un Prince charmant, les auteurs du volume complémentaire, qui viennent de réveiller. Et on a l'impression qu'il ne s'est rien passé entre-temps, qu'il n'y a pas eu de critique du cadre, alors que dès la première année en Allemagne, il y a eu des critiques systématiques faites du point de vue universitaire. On fait dans le volume complémentaire comme si en réalité n'existait pas la perspective actionnelle. On en parle un petit peu bien obligé parce que maintenant tous les éditeurs se sont mis à la perspective actionnelle. Mais vous ne retrouvez encore une fois dans la présentation de la médiation du volume complémentaire aucune de ces remarques méthodologiques que j'ai pu faire moi-même. On reste sur le paradigme de la communication. On ne bouge pas du paradigme de l'interaction communicative et on ne bouge pas non plus de l'interculturel.
Moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'il y a effectivement des activités de médiation qui sont très ponctuelles, qui sont, donc, comme vous dites, hein, c'est découpé en petites tâches, en réalité, et ils proposent à côté des stratégies de médiation, mais ces stratégies de médiation, c'est pas vraiment des stratégies, en fait. Par exemple, ils proposent des stratégies pour expliquer un nouveau concept. Expliquer un nouveau concept, c'est déjà une activité de médiation. Et des stratégies pour simplifier un texte, qui serait aussi déjà une activité en réalité de médiation. Et ils proposent d'autres activités de médiation pour lesquelles il n'y a pas du tout de stratégie. Par exemple, prendre des notes pendant des conférences ou des séminaires. Et là, il n'y a absolument aucune stratégie qui est proposée, alors qu'on sait très bien qu'il y a besoin de stratégie pour prendre des notes. Ça s'improvise. Enfin, on l'apprend en faisant, oui. Ça arrive aussi. Mais il y a quand même des stratégies qu'on peut enseigner. D'ailleurs, il y avait eu un article sur Le Monde à ce propos, Le Monde Campus, parce qu'effectivement, il y avait beaucoup d'étudiants qui ne savaient pas prendre des notes. C'est donc un truc qui n'est pas si évident que ça. Et là-dessus, il n'y a pas du tout de proposition de stratégie. Donc, ça revient un peu à ce que vous disiez. C'est plutôt pour l'évaluation. Et c'est l'évaluation de choses qu'on faisait déjà, d'ailleurs,
Encore une fois, pourquoi ? Parce que les organismes qui sont à la manœuvre derrière l'européen et le volume complémentaire, ce sont des responsables d'organismes commerciaux de certification. C'est ça qu'il faut se mettre en tête.
Oui.
Leur objectif est de maintenir le marché, leur marché.
Non.
Pourquoi est-ce qu'ils se sont intéressés à la médiation ? Parce que ça commençait à devenir évident que le cadre européen, il fallait lui donner un petit coup de jeune. D'accord ? Un petit coup de jeune pour pouvoir maintenir leur marché de la certification. Mais moi, j'attends avec intérêt de voir quelles vont être les épreuves de certification que vont proposer le British Council ou que vont proposer le Goethe Institute ou que vont proposer d'autres organismes de ce type dans le monde.
Mm-hmm.
J'attends avec intérêt, parce que la mise en œuvre, regarde, imaginez ce que demande la mise en œuvre de ces évaluations. Pour la mise en œuvre de la médiation, il faut des dispositifs. Si on veut vraiment que ce soit nouveau, je revois à ce que vous disiez, si on veut vraiment que ce soit nouveau, ça renvoie à des dispositifs d'évaluation qui sont très différents de ce qui sont utilisés actuellement.
Mm-hmm.
Par exemple, de l'évaluation collective. Ce qui reste encore dans le volume complémentaire, c'est de l'évaluation individuelle.
Oui. Mm-hmm.
Il y a quand même quelque chose d'énorme dans le cadre qui n'est pas remis en cause. On ne remet rien en cause du cadre, d'ailleurs, dans le volume complémentaire. C'est qu'on annonce la perspective de l'action sociale, d'accord, et en même temps le plurilinguisme. Or, les échelles sont toujours des échelles d'évaluation individuelle monolingue. Mm-hmm. Chercher l'erreur. Enfin, c'est énorme comme contradiction. Mm-hmm. Pourquoi ça reste monolingue et pourquoi ça reste individuel? Eh bien, parce que les évaluations de ces organismes sont des évaluations individuelles monolingues. Voilà.
Oui.
Et qu'ils ne savent pas faire autrement ou ça ne les intéresse pas de faire autrement.
Mm-hmm.
Parce que le marché, c'est ça. Le marché, c'est l'évaluation individuelle monolingue.
Mm-hmm.
Bon. Moi, je comprends très bien qu'ils veuillent maintenir leur marché. Mais qu'ils ne nous fassent pas passer ça comme la dernière découverte et innovation en didactique des langues.
Mm-hmm.
S'il vous plaît, quand même. Arrêtez de nous prendre pour des idiots pour rester poli. Arrêtez de nous prendre pour des idiots.
D'accord. Oui, justement,
je suppose que vous êtes d'accord pour qu'on arrête de vous prendre pour une idiote. Ça,
oui,
c'est clair.
Oui, bah oui, qui pourrait, s'y opposer. justement, en parlant d'idiot, je ne sais pas si vous avez lu cet ouvrage de Jacques Rancière qui s'appelle Le Maître Ignorant. Qu'on pourrait ouais. finalement rapprocher de ça. C'est, quelque part, c'est ce que nous demande de faire le cadre commun de référence. Hein. Il nous donne l'objectif à atteindre et voilà, il faut y arriver.
Y arriver. Oui, parce qu'encore une fois, vous allez dire que je leur en veux, mais c'est comme ça. La seule chose qui les intéresse vraiment, c'est de maintenir le marché des certifications internationales en langue.
Mm-hmm.
Voilà. C'est ça l'objectif. Et ce qu'ils font et ce qu'ils ne font pas vient de cet objectif fondamental. C'est leur logique. Tout ce qui n'entre pas, tout ce qui n'a pas d'intérêt pour continuer à alimenter, si vous voulez, leur business model, comme on dit en management d'entreprise, à savoir ces certifications qui sont payantes. Il faut savoir, par exemple, qu'en France, le ministère actuel de l'Éducation veut pratiquement remplacer il y aura toujours les épreuves de langue au baccalauréat, mais tous les élèves, c'est dans le projet, vont passer les certifications du Goethe Institute pour l'allemand, du British Council pour l'anglais, de l'Instituto Cervantes pour l'espagnol. Et ça, comme je vous le disais dans ma conférence précédente, c'est déjà inscrit dans la stratégie. Vous parlez de stratégie aussi, c'est déjà inscrit dans leur stratégie. Ce qu'ils ont proposé, les descripteurs de compétences, ne permet pas au système scolaire,
mm-hmm.
ni aux inspecteurs, ni aux enseignants, d'élaborer véritablement des évaluations comme on veut maintenant, des évaluations que l'on appelle des évaluations standardisées.
Mm-hmm.
Il n'y a que les équipes de ces organismes-là qui peuvent le faire, non pas à partir des descripteurs de compétences, mais à partir de leur banque d'items calibrés. Ils
oui.
travaillent à partir de banques d'items calibrés, comme oui. le font d'ailleurs Pearce et PISA, et non pas à partir des descripteurs. Les descripteurs, c'est l'affichage pour la galerie.
Mm-hmm.
Et aussi pour que les gens finissent par dire, ben non, on n'arrive pas, et ben ça tombe bien, nous n'y arrivons pas. Ben ça tombe bien, justement, nous, on a nos certifications bien calées, là. Il suffit de les acheter.
Mm-hmm. Oui.
Il suffit de les acheter. Voilà. Alors sur le maître ignorant, oui, effectivement, c'est une bonne comparaison. Ce que le maître ignorait, c'est déjà ce que je pense, beaucoup de maîtres ignoraient, c'est ce que je viens de dire là. que tout ça, en fait, relève objectivement, je ne fais pas de procès d'intention, mais objectivement d'une stratégie de captation de marché. Mmh. Laisser les enseignants ignorants de la manière dont on réalise effectivement des évaluations standardisées, laisser les inspecteurs des différents systèmes scolaires se rendre compte qu'eux-mêmes n'ont pas la formation, parce qu'il faut avoir des mathématiciens qui font tourner les modèles mathématiques et les modèles statistiques par derrière. Tout ça, c'est une stratégie pensée qui est en train d'arriver à son succès ultime, à savoir le remplacement des diplômes nationaux par des certifications internationales privées. C'est déjà le cas dans certains pays. Mmh. J'ai depuis déjà des années, en Grèce par exemple, les seuls diplômes reconnus en français langue étrangère, ce sont ceux de la France. Ce ne sont plus ceux du système scolaire grec, mmh. parce qu'il est particulièrement en déshérence, on va dire. Mais c'est ce qui attend tous les systèmes scolaires européens. Mmh. Maintenant, à vous enseignants, puisque vous m'écoutez, à vous d'en tirer les conclusions et éventuellement de vous mettre dans une perspective actionnelle par rapport à tout ça.
Mmh. D'accord. Alors, en général, je conclue toujours mes interviews par une question qui fait référence au titre du blog, qui s'appelle donc Culture FLE. Et j'aime bien demander à mon intervenant ce que ça représente pour lui, qu'évoque pour lui le mot culture.
Qu'évoque pour moi le mot culture? Vous avez compris que c'est la question à 1000 euros,
comment on dit en français. Oui, je...
Le mot culture, je vais me limiter à parler en tant que didacticien. Le mot culture, ça renvoie à tout ce projet séculaire, en fait, de l'enseignement de la langue, en fait, comme une porte privilégiée d'accès à la culture étrangère. Et ce dont j'ai parlé dans ma dernière conférence, c'est justement de toute la richesse de ce parcours, depuis le transculturel, le métaculturel, l'inter, le pluri et maintenant le co-culturel. On voit un petit peu l'énorme richesse de cette problématique de la compétence culturelle. Comment, dans l'enseignement scolaire, comment rendre nos élèves, les rendre comme de véritables citoyens actifs dans leur propre culture et par rapport à leur propre culture. Voilà un petit peu tout l'enjeu de l'enseignement scolaire. Et l'enjeu de l'enseignement aux adultes n'est pas, bien sûr, de former les apprenants adultes à cela, mais d'utiliser systématiquement en classe déjà leur culture propre, leur culture d'apprentissage, leur stratégie, mais aussi toutes leurs réflexions, leur richesse de leur vie professionnelle, personnelle, publique en termes de culture. Ne pas commencer un petit peu à zéro, comme si on mettait les compteurs à zéro dans l'approche communicative. D'un seul coup, on se retrouve des adultes qui se retrouvent analphabètes complètement, qui se retrouvent ne pas pouvoir dire que des petites phrases sans signification. On leur fait jouer des petites scénettes absolument infantiles. Ça peut plaire à certains et à un certain temps. Mais vous voyez comment l'approche communicative, c'est de la régression instituée. C'est-à-dire que les apprenants d'un seul coup se retrouvent avec une compétence de communication et une compétence d'action en termes de stratégie d'apprentissage qui est pratiquement nulle par rapport à toute leur richesse antérieure. Mmh. L'intérêt du plurilinguisme, aussi considérer la classe de langue, en quelque sorte, comme un milieu pluriculturel. Vous me demandez à quoi ça renvoie la culture, je vais terminer par ça, si vous voulez. La grande nouveauté qu'introduit la perspective actionnelle, c'est de reprendre à nouveau la classe comme un environnement en homologie parfaite avec la société à laquelle on veut préparer les élèves. On veut préparer les élèves maintenant à être de bons citoyens, efficaces, responsables, autonomes, critiques, dans une société multilingue et multiculturelle. Tiens, ça tombe bien. Qu'est-ce que c'est une classe? C'est un environnement par nature multilingue. Il y a forcément au moins la langue 1 et la langue 2, et puis il y a énormément de cas où il y a beaucoup plus de langues. Et c'est forcément un milieu multiculturel, parce qu'il y a la culture de l'enseignant, et puis il y a toutes les cultures d'apprentissage différentes d'un élève à l'autre, qui provient de leur profil cognitif, qui provient de leurs expériences antérieures d'apprentissage. Vous vous rendez compte un petit peu la pluriculturalité didactique dans une classe de langue. Mmh. Et bien, tout ça, il faut quand même le gérer. il va falloir le gérer entre nous, professeurs et élèves, de façon à ce que tout ça, eh bien, ça ne donne pas des petites communautés, mais que tout ça, ça donne une co-culture commune. Mmh. L'idée que je voudrais, sur laquelle je voudrais terminer, là, mais c'est une idée que j'ai présentée déjà à la conférence des grandes écoles en France en 1998. Ça nous rajeunit, ça fait 20 ans. Je disais que la classe de langue, il faut, et c'était déjà une critique que je faisais de l'approche communicative. Dans l'approche communicative, on prépare les élèves à une langue qu'ils vont utiliser plus tard. Dans la perspective actionnelle, on fait fonctionner les élèves comme de véritables citoyens dans leur classe pour les préparer à être de véritables citoyens dans la société extérieure. Et il se trouve que la classe de langue est un milieu par nature où il y a du multilinguisme, du multiculturalisme, où il faut repérer ses erreurs, utiliser de façon profitable ses erreurs pour tous, où il faut travailler en groupe, où on est confronté constamment à l'inconnu, à la complexité. Ben, je ne sais pas ce qui se passe dans les entreprises allemandes, apparemment elles sont quand même plus efficaces que les entreprises françaises, mais ce que je viens de dire là, c'est justement tout ce qui manque aux employés dans les entreprises françaises. Tout ça. Hein. On cache ses erreurs, on ne les montre pas aux autres. On est frileux vis-à-vis de l'innovation, de la nouveauté. On a du mal à travailler en groupe. Donc, je termine, si vous voulez, par cette idée du point de vue culturel, c'est qu'une classe de langue, ce n'est pas seulement apprendre une langue et une culture qui servira plus tard. Une classe de langue, c'est un incubateur de compétences culturelles. En classe de langue, on peut travailler dans un milieu protégé, sécure, on peut travailler de façon intensive, mais sécurisée, sans risque, exactement les mêmes compétences que l'on va devoir mobiliser en termes d'acteurs sociaux, aussi bien en milieu public qu'en milieu professionnel. Donc, vous voyez, la fonction de l'enseignant de langue, c'est un éducateur de plein droit.
Oui, c'est un métier complexe.
Oui, c'est un métier complexe.
Ben, merci beaucoup. Hein.
Bon.
Et voilà, j'espère que cette interview vous a plu. Si vous aimez ce podcast, vous pouvez m'aider à le faire connaître en mettant 5 étoiles sur iTunes et en ajoutant un commentaire sympathique. Vous pouvez aussi vous abonner sur iTunes et sur Android. Et n'oubliez pas que la discussion continue sur le blog culture-fleu.de où vous pouvez poser toutes vos questions. Nous y répondrons avec plaisir.